Avez-vous déjà été perdu dans les limites que vous deviez poser à votre entourage, entre celles que l'on vous oblige à poser à vos enfants et celles qu'on ne vous conseille pas spécialement de mettre à vos parents ou beaux-parents? N'y a-t-il pas un étrange paradoxe? Pourquoi vous crie-t-on partout de poser des limites à vos enfants, mais on ne vous dit presque rien du reste de la population?
Moi j'aime bien quand maman elle est gentille.
Quand elle est pas gentille, j'ai envie de lui mettre du caca sur la tête.
Bienvenue sur Parents en Or, le soutien parental qui combine science et respect de l'enfant. Je suis Sandra, scientifique de formation et consultante en parentalité au service du bien-être des familles. Je questionne les évidences en éducation, je recherche les nuances, je fouille pour vous la littérature scientifique. Tout ça pour défendre les intérêts des enfants et de leurs parents. Pour soutenir ce podcast et promouvoir le respect de l'enfant, n'hésitez pas à mettre une note maximale sur votre plateforme d'écoute, à commenter, vous abonner et à partager ce podcast. On aime prôner en éducation la nécessité de poser des limites aux enfants. On en fait même le pilier central dans beaucoup de discours. On le martèle, on le met à toutes les sauces, des plus infondées aux plus imposées. On le dit, on le crie pour le bien des mères. Mais cette réduction de la femme à sa seule casquette de mère oublie une énorme majorité de sa vie de femme, d'humaine. On ne dit pas aux mères de poser des limites à leurs médecins, leurs partenaires, leurs patrons, ou encore aux institutions qui s'immiscent chez elles dans les relations avec leurs enfants, ou à l'entourage qui dégueule de conseils sur elles. On leur dit « mettez des limites à vos enfants et tout ira bien ». Ça paraît simple, ça paraît incontournable. Mettez des limites, tenez-les, et vous ne serez pas épuisé. Vos enfants finiront par s'y plier et tout est bien qui finit bien. Une mère désaliénée, des enfants disciplinés et vous retrouverez votre vie presque comme avant. Ça fait rêver, on y croirait. Non, bien sûr. Pourquoi ? Parce qu'on ne vit pas qu'avec nos enfants. On ne côtoie pas que des enfants que l'on peut faire obéir. On côtoie aussi d'autres adultes, beaucoup d'autres adultes. Et si on disait plutôt « mettez des limites à tout le monde », tous ceux qui vous pressent, qui vous affaiblissent, qui vous rendent la vie plus lourde. Poser des limites, oui, mais tout comme on demande à tout le monde un degré de tolérance supérieur pour les personnes avec des handicaps ou des difficultés particulières, attendez-vous à plus d'incapacité à suivre des règles de la part des enfants. Nos attentes demandent une plus grande tolérance au vu de leurs incapacités. J'aime le rappeler, mais les enfants, en comparaison des autres catégories d'âge de la population, ont des handicaps temporaires. Physiques, avec une plus petite taille, une plus faible force et de moindre capacité motrice, mais aussi cognitifs, avec une incapacité à réguler leurs émotions, une incompréhension de la notion de temps, une impossibilité de se mettre à la place des autres et d'en déduire leurs pensées et leurs états émotionnels, et des difficultés à faire appel à leur raison. Il est donc complètement incohérent d'en attendre plus des enfants que des adultes et de leur poser des limites qu'on ne pose parfois même pas du tout à des adultes au cerveau qui est pourtant potentiellement mature chez les adultes. Posez des limites, mais soyez moins indulgents avec les adultes bien plus capables de prendre sur eux que vos enfants. Exigez plus des adultes qui ont bien moins d'excuses que les enfants. Si vous imposez vos limites à vos enfants, mais qu'au travail votre patron il vous malmène, pourquoi ? Pourquoi cette incohérence ? Parce qu'il est plus simple d'imposer ses convenances sur une catégorie de la population plus faible que soi. On retrouve ce schéma en escalier, le grand patron qui pose ses limites au petit manager, qui pose ses limites aux salariés, qui pose ses limites à leur femme, qui pose ses limites à ses enfants. Et jamais en sens inverse. Ou de manière extrêmement difficile. Et puis il y a le fait que l'on considère que nos enfants nous appartiennent et qu'on peut en faire ce qu'on veut, pour le meilleur et pour le pire. Je me souviens d'une anecdote. Des amis à nous venaient manger à la maison avec leurs deux enfants. La soirée s'est bien déroulée, mais la maman, elle a passé la soirée à tenter de poser des limites à sa fille aînée. Elle lui disait de rendre les jouets qu'elle avait pris à mes enfants, de dire pardon, de venir s'asseoir. Et comme à chaque fois, au lieu de servir la soirée, ça a plombé un peu l'ambiance. Mais c'était pas le plus important. Sa fille, elle finissait par faire ce que sa mère lui demandait. Elle a rendu le jouet. Elle a dit pardon, ou en tout cas, elle a plutôt bafouillé une onomatopée sans aucune émotion positive dedans, qui devait servir de pardon. Elle s'est assise et elle a mangé un tout petit peu. La maman, elle s'est sentie obéie. En tout cas, je crois que c'est ce qui comptait le plus. Se sentir meneuse. Savoir gérer le truc, voyez. Se dire qu'on remplit bien l'attente sociale et que ça va servir notre image de parent bien comme il faut. Mais ne vous leurrez pas, on trouvera toujours un truc pourri à dire sur vous, même si vous jouez aux parents qui suit les règles des convenances sociales de votre culture. Mais j'en viens à la suite de l'anecdote. Cette amie, elle travaillait comme assistante médicale. En fait, elle vivait des journées assez horribles. Sa patronne, c'était une femme qui était dans l'entreprise depuis très longtemps, elle passait ses journées à lui lancer des piques, des remarques et à lui demander des choses imprévues. En fait, mon amie, elle se faisait écraser par des demandes irréalistes de sa patronne. Elle subissait un harcèlement moral. Elle prenait sur elle toute la semaine et elle attendait patiemment les week-ends pour essayer de se reposer de cette dure semaine. Mais, étrangement, elle n'envisageait pas de changer de travail. J'ai trouvé que c'était une situation assez étrange et pourtant complètement banale. On met des limites d'un côté et on se fait piétiner de l'autre. Parce qu'il y a des limites plus faciles à mettre que d'autres. Faciles, pas dans leur application, mais faciles parce que ça nous effraie moins. Je vous offre une pause de quelques secondes dans cet épisode de podcast, simplement pour vous informer que vous trouverez sur mon site ou dans le lien en description de cet épisode tous les services que je propose aux parents et aux professionnels de l'enfance. Je peux peut-être vous aider, n'hésitez pas à y jeter un œil. On retourne maintenant à l'épisode du jour. Poser des limites à un enfant, c'est compliqué hein, en réalité. Ça demande de répéter beaucoup et longtemps. Ça peut épuiser d'essayer de poser des limites. J'en sais quelque chose. Donc, c'est pas simple en réalité, mais ça ne nous fait pas peur, ou très peu. S'imposer face à un enfant, c'est pas très effrayant. Mais s'imposer face à un adulte, ça peut faire peur. Peur parce que ça peut mettre en péril la relation. Honnêtement, des fois, il y a des relations entre adultes qui ont l'air de tenir à pas grand-chose. Hein. Ça tient à une règle de politesse, parfois. Parce qu'on est tous terriblement susceptibles, et il suffit parfois d'un seul moment, d'une minute, d'une phrase pour détruire un lien. Quand on tente de mettre une limite à un ami, on est souvent très embêté. On utilise 20 000 pincettes, on essaie de trouver des tournures de phrases qui vont pas le vexer, qui vont pas le culpabiliser. Honnêtement, je trouve ça hyper délicat à mettre en place. Je trouve ça nul, horrible et dur de se dire que juste demander à un ami d'arrêter, par exemple, de débarquer à l'improviste chez nous, eh ben c'est risquer de perdre son amitié, parce que, juste, il le prendrait mal. C'est pareil avec notre patron, on a souvent l'impression que c'est lui qui a le pouvoir, et on a peur de se faire virer ou de se faire réprimander, etc. etc. Si on s'oppose à ce qu'il nous demande, on a peur de basculer dans une relation toxique ou encore plus toxique avec lui. Il y a aussi le syndrome de la bonne élève, surtout chez les femmes, cette posture qu'on nous a appris des tout petits, qui nous pousse à suivre les règles pour être aimées. On a peur de mettre des limites à notre patron, qui nous impose des heures sup ou qui nous donne des missions qui ne font pas partie de notre fiche de poste. On va peut-être tenter de lui faire comprendre, avec beaucoup d'hésitation et beaucoup de douceur. On va tourner autour du pot un sacré moment, et c'est pas sûr qu'il comprenne, ou même qu'il prenne ça en considération. Cette peur du désaccord, de dire non, de s'opposer à ce que nous demandent ou dit d'autres adultes, a été étudiée dans un grand nombre d'études. Une méta-analyse de 18 études, avec au total 625 participants, semble démontrer qu'être en désaccord active et désactive les zones cérébrales impliquées dans le sentiment d'aversion et la sensation de faire une erreur. Quand on montre notre désaccord à quelqu'un, on peut donc sentir peut-être ce sentiment de faire une erreur, que c'est pas bien le désaccord. D'autres études suggèrent que dire oui, être d'accord avec les autres alors que ça va à l'encontre de nos intérêts, active les mêmes zones que celles impliquées dans la dissonance cognitive, cette sensation d'incohérence entre ce que l'on pense et ce que l'on fait ou dit. Tout ça, ça suppose qu'être en désaccord avec un de nos pairs ou avec un groupe, ça crée un sentiment fortement douloureux, et plus encore chez les personnes qui ne savent pas dire non. Parce que, en réalité, c'est un cercle vicieux. Moins on dit non, et plus c'est douloureux pour nous de dire non. On ne met aucune pincette avec nos enfants, ni avec les personnes avec qui on est très proche, parce que la relation n'est pas aussi fragile que celle décrite précédemment. Vous avez beaucoup moins à perdre à mettre des limites à vos enfants qu'à en mettre aux adultes autour de vous. Les risques sont moindres. Vous savez que vos enfants, ils vont continuer à vous aimer, ils dépendent de vous et cette dépendance, elle passe par l'attachement et l'amour qu'ils ont pour vous. Les enfants doutent d'eux avant de douter de leurs parents. Pourquoi cet acharnement à clamer que les limites sur nos enfants sont presque une question de survie maternelle, mais on ne retrouve pas cette ferveur quand il s'agit de mettre des limites aux autres adultes? Évidemment, ce paradoxe repose sur quelque chose de simple. Les enfants sont une catégorie de la population sous-considérée. On en fait ce qu'on veut des enfants dans le monde. Et il est assez intolérable pour les adultes de voir notre supériorité remise en question par un enfant. On baissera les yeux devant un adulte dont on est le subordonné qui nous confronte, alors qu'on sortira la force s'il s'agit d'un enfant. On me dira alors que des enfants dépassent plus souvent les limites que les adultes et que c'est pour ça qu'il faut être un peu plus ferme. Je questionnerai alors, est-ce vrai ou est-ce une impression? Et si ça s'avère vrai, les raisons sont-elles uniques ou peut-on émettre plusieurs hypothèses? Comme, peut-être dépassent-ils plus les limites parce qu'ils ont plus de limites à dépasser? Peut-être dépassent-ils plus les limites parce qu'elles sont inadaptées à leur capacité du moment? Ou peut-être parce qu'ils dépassent plus les limites parce qu'ils ne sont pas encore suffisamment grands et qu'ils n'ont pas encore eu assez de temps pour intégrer les règles sociales? Je questionnerai également, doit-on gérer tous les dépassements de limites de la même manière? Est-ce systématiquement mal de les dépasser? N'y a-t-il pas un continuum sur l'incongruité des limites entre ne pas arracher les yeux de son frère et ne pas faire tomber une coquillette par terre? Ne devrait-on pas mesurer chaque cas? Ne devrait-on pas inclure tout autant nos voisins, nos parents, nos collègues dans ce continuum des limites qu'il faudrait gérer? Tout autant que nos enfants? Mon voisin qui décharge sa terre sur mon terrain ou ma collègue qui n'a pas répondu à mon bonjour de ce matin, est-ce que ça se gère de la même manière? Est-ce que c'est aussi grave? Est-ce qu'on devrait appliquer les mêmes conséquences ou est-ce qu'il devrait y avoir une mesure en prenant en compte les capacités de la personne en face de moi? Et si on remplace ma collègue par un enfant, est-ce que ça mérite une réaction plus forte lorsqu'il ne me répond pas bonjour? Et si oui, pourquoi ?